Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés, et aujourd'hui en l'occurrence un épisode dans le bunker, qui parle donc de films, de séries liées à la guerre, ou en tout cas à la vie militaire d'une manière plus générale. Aujourd'hui, avec deux chercheurs du domaine défense et société de l'IRSEM, donc tout d'abord Florian Opillard, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs se souviennent, vous étiez déjà intervenu, notamment pour nous parler des armées face au Covid, dans le cadre d'une étude, d'une ANR Flash que faisait l'IRSEM à ce sujet, ça devait être il y a un an ou deux maintenant. Et Camille Trotou, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Et pour parler aujourd'hui d'un film récent, voire très récent, donc Mon Légionnaire, film sorti en 2021, réalisé par Rachel Lang, avec notamment Louis Garrel et Camille Cotin, mais aussi Ina Maria Bartaïté et Alexandre Kuznetsov. Bon, ceux-là, évidemment, disent un peu moins des choses, mais vu que c'est vraiment presque les deux personnages centraux du film, il fallait citer ces deux acteurs-là. Donc, film qui parle, disons, de moment de vie, une tranche de vie de légionnaires et aussi et surtout de leur famille et de leur femme, puisque c'est un film qui est vraiment en deux parties, avec à la fois la partie au sein du régiment, donc un régiment étranger de parachutistes, je crois, basé en Corse, avec des départs au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, et puis de l'autre côté, les femmes. Alors ça commence avec la femme d'un légionnaire ukrainien qui arrive en Corse, et puis on la voit évoluer, se débattre un peu dans le milieu des femmes, des conjoints, des familles de militaires, pendant qu'en parallèle, son mari, qui est lieutenant, prend le commandement d'une section, et puis essaye de mettre en place une sorte de chose, section dans laquelle il y a donc Vlad, joué par Alexandre Kuznetsov, ce légionnaire ukrainien qui veut devenir commando de la Légion. Alors peut-être, dites-nous l'un et l'autre, alors je suis pas sûr qu'on ait le même avis sur ce film, parce que c'est un film que j'ai trouvé intéressant et très juste à plein de moments, ce qui ne veut pas dire qu'il soit, j'ai pas forcément été emporté, mais dites-nous peut-être ce qui vous a intéressé donc, dans ce Mon Légionnaire de Rachel Lang. Camille Trotou.
Alors moi j'ai été assez bluffée par ce film, de son aspect documentaire et de son réalisme. Alors bien sûr il y aura toujours des petits détails éventuellement pour les plus ayatollahs d'entre nous, mais en réalité j'ai trouvé, pour parler avec des termes anthropologiques...
Ils sont pas plantés sur les galons quoi.
Ouais, ils sont pas plantés sur les galons, le langage indigène, hein, c'est un terme qu'on utilise en sociologie, en anthropologie, est très bien respecté. Donc j'ai été assez bluffée par ça, les grades, vous l'avez dit, sont très bien, et puis même il y a certains moments où moi je me suis demandé comment les non-initiés à la chose militaire peuvent comprendre ce qui est en train de se passer. Je pense notamment à la scène de l'IED par exemple, quand il explose avec...
Donc l'IED c'est donc l'engin explosif improvisé qui est dans un convoi au Mali où voilà, ça saute. Et effectivement je peux dire que ça m'a beaucoup rappelé beaucoup d'épisodes dans le viseur qu'on a ici aussi, parce que c'est toujours... Bon, on en reparlera après, mais c'est très difficile d'avoir une perception un peu sensible de ce à quoi ça pouvait ressembler le Mali et l'opération Barkhane. Et ça, j'ai trouvé que ça donnait une très bonne idée. Mais pardon, je vous ai interrompu.
Non, pas de souci, mais juste pour terminer sur ce point-là, moi qui ai pu le vivre, vraiment,
je
me suis retrouvée.
Vous êtes capitaine.
Oui, pardon, capitaine de l'armée de l'air. J'ai effectué un Mali en 2019 et il y a plein de choses où je me suis revue moi-même au milieu du désert malien. Donc, sur ce point-là, pour tout ce qui est aspect opération, j'ai trouvé vraiment très réaliste ce film.
Florian Pierre.
Oui, moi je crois que je rajouterais un peu que, en fait, c'est pas un film de guerre à proprement parler, c'est-à-dire que les scènes d'affrontement, les scènes de combat sont assez secondaires finalement dans la trame du film. Elles sont presque minoritaires même dans le temps qui est imparti au rapport à l'armée, disons. Et on a plus en fait accès à ce que ça fait à l'intime. On a plus accès à ce que ça fait aux femmes de militaires, à leur manière de se rencontrer, de se socialiser, de créer en fait un groupe de soutien à distance du combat. Et même quand il est question de la scène de l'IED, même quand il est question des scènes d'affrontement, on est presque systématiquement à distance de l'affrontement. La scène de l'IED se passe dans un convoi de transport et se passe dans le fourgon du lieutenant, à distance du convoi de tête qui, lui, est frappé par l'IED. Et en fait, on a accès à l'angoisse. À ce que la distance au combat crée comme angoisse chez Louis Garrel, Maxime, le lieutenant, et à la difficulté aussi à se représenter ce que c'est que la violence de la mort d'un de ces hommes, et puis la difficulté à dire. Bon voilà, plein de thématiques en fait qui font que le combat en tant que tel, il est presque assez secondaire finalement, et on a plutôt accès à ce trouble permanent à la fois dans le combat et à la fois dans le retour à la maison.
Mmh. Ouais, c'est vrai, et c'est un... Bon, c'est un film qui se passe aux trois quarts en Corse, essentiellement, et qui, d'ailleurs, ça aurait pu être le danger qui invisibilise la Corse. La Corse et les Corses, parce qu'effectivement, un régiment, bah, c'est un peu en vase clos. Et notamment vers la fin du film, on voit qu'il y a des interactions qui deviennent problématiques avec, pour le dire simplement, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est pas un énorme spoiler, c'est donc la femme, Nika, du légionnaire d'origine ukrainienne, qui est elle-même d'origine ukrainienne, se rapproche d'un Corse qui est son moniteur d'auto-école, et d'ailleurs c'est très très mal vu dans le régiment, et c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette dimension très forte de sociabilisation et aussi de contrôle social. Dans le milieu militaire, on voit, enfin vraiment c'est très intéressant la manière dont c'est décrit aussi sans complaisance le fait que ben, y a une forte pression sociale entre familles de militaires et que ça fait partie, disons, de l'expérience d'être marié apparemment à un militaire et qu'on peut pas s'en extraire, y compris dans ses côtés. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il y a le côté des ballons, les fêtes et tout, c'est sympa, on fait des kermesses entre soi avec les enfants. Et puis, il y a une face un peu plus obscure et un peu plus violente, symboliquement, à l'échelle du régiment. Camille Trotou ?
Oui, c'est très juste quand on repense au moment où Maxime, donc le lieutenant, se fait convoquer par son chef de corps et que son chef de corps lui donne l'ordre d'intimer l'ordre à sa femme, donc la femme du lieutenant, de se rendre plus disponible pour réaliser des activités au sein du club des épouses. Donc le club des épouses, c'est une sorte de communauté qui se crée au sein du régiment et qui est vraiment dédiée aux épouses des militaires du régiment, tout grade confondu. Et au sein même de ce club, il y a aussi des hiérarchies qui se mettent en place, puisque vous avez tout en haut, un peu à la tête de ce club, la femme du chef de corps, bien évidemment, et puis après, un peu l'ensemble des épouses. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a une forme d'incorporation des normes du régiment au sein des familles.
Florian Bière ?
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que parmi ces femmes de militaires, donc il y a ce que disait Camille Trotou, cette espèce de rappel à l'ordre du chef de corps auprès du lieutenant, votre femme doit participer aux activités. On la voit scène d'après dans un
club d'œnologie.
Un club d'œnologie, voilà, une séance où on goûte du vin.
On peut préciser que là où c'est intéressant, c'est que cette femme-là, donc jouée par Camille Cotin, c'est une avocate qui d'avoir une carrière assez importante, etc. Je veux dire, elle a pas l'air d'être destinée à une vie de femme au foyer. Et pourtant, il lui est donc signifié que, en fait, c'est un peu ça son premier métier.
C'est son premier métier, c'est son premier rôle, en tout cas, en tant que femme de militaire qui est venue en Corse. Et en même temps, elle est décalée par rapport aux autres femmes de militaire. C'est une femme d'officier. Une femme d'officier avocate qui est toujours en train de bouger entre Paris, Marseille, les différents lieux de sa profession. Et elle dit elle-même dans la séance de wine tasting qu'elle n'aime pas les autres femmes de militaires. Il y a une différence sociale ici qui vient un peu battre en brèche l'idée que voilà, l'armée serait un espèce de creuset dans lequel tout le monde se retrouve. Vous voyez en fait ici, par la socialisation des femmes de militaires, aussi des différences sociales qu'on peut observer très nettement dans même le caractère de Camille Cotin. Camille Cotin est là pour soutenir son homme, elle n'est pas là pour devenir soit la femme de... l'amie de la femme tradicato du chef de corps, elle l'appelle comme ça, hein, la femme tradicato, l'amie des femmes d'officiers, soit officiers subalternes, soit des sous-officiers du régiment.
Ouais, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une stratification sociale. C'est un film qui excelle à montrer que les officiers et les militaires du rang vivent dans deux univers un peu séparés. Parce que, les sous-officiers d'ailleurs, c'est Louis Garrel d'une part et Vlad d'autre part qui vraiment ont pas le même ethos, la même attitude physique, etc., la même manière de s'exprimer. Et puis, mais bon, ça encore, on pourrait dire, tout le monde est différent et pourquoi pas, mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça se répercute sur les familles, puisqu'on peut dire que, donc, Nika, la femme du légionnaire, fait du babysitting pour la femme de l'officier. Et du coup, ça montre, ces rapports, je sais pas si vous les appelez de domination, mais dans tout cas, symbolique, des rapports de classe, certainement, et qui montrent que, il y a les grades, et puis les grades, ils traduisent une réalité plus large et plus implacable aussi.
Oui, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales de la domination rapprochée. C'est-à-dire qu'en effet, Nika est dans une position subalterne par rapport à Camille Cotin. Alors même que ça se fait dans une espèce d'ambiance de rencontre joyeuse.
Ah, elle est super sympa, Camille Cotin, c'est pas le problème.
Tout à fait. La domination ne s'exerce pas, enfin je veux dire, la gentillesse n'empêche pas le processus de domination, qui est un processus structurel et qui n'empêche absolument pas le fait qu'on s'entende bien, qu'on rigole ensemble, etc. Donc oui, ces différences sociales, je trouve, c'est intéressant de voir comment elles sont dépeintes à travers les femmes. Parce qu'en fait, les grades, en général, permettent de passer outre la subtilité de ces processus de domination de classe, parfois de race. Là, en fait, avec les femmes, et d'ailleurs, c'est très intéressant, quand on rencontre les officiers avec leurs femmes, on aperçoit tout à coup des hiérarchies sociales qui ne paraissent pas derrière l'uniforme, derrière le grade. Et ici, je trouve que Rachel Lang, qui est elle-même réserviste dans un régiment de transmission, le 40e régiment de transmission, qui est capitaine, traduit très bien...
Très haut que la réalisatrice.
Oui, tout à fait. Elle traduit très bien, en fait... la manière par laquelle l'entrée dans la famille permet de restituer ces différences sociales, cette stratification dont tu parlais, Alexandre.
Camille Trousseau ?
Oui, et puis l'entrée par la famille permet aussi de se rendre compte à quel point la profession de militaire, d'autant plus au sein du régiment étranger de parachutistes, donc de la Légion étrangère, peut avoir un impact sur l'ensemble des membres de la famille. Je pense notamment au petit Paul, qui est le fils donc, du lieutenant et Maxime et de sa femme, qui répond à sa mère par les fameux affirmatifs, négatifs, et quand elle lui dit « ce serait bien qu'on arrête de parler Légion à la maison », il répond « reçu ». Donc il y a aussi toute cette... tout cet englobement en fait de la vie familiale qui est dicté par ce qui se passe au régiment en fait.
Et on peut le préciser, ça a l'air trivial, mais en fait il faut peut-être le préciser, c'est surtout un très gros film sur l'attente et sur le fait que les familles ne font qu'attendre tout le temps et que c'est à ça qu'il faut se préparer en étant conjoint de militaire, à attendre quelqu'un qui est parti et qui revient. C'est ce qui pose problème donc dans le couple entre Nika et Vlad. C'est aussi un peu... Mais c'est... Pardon, allez-y.
C'est aussi ce qui pose problème au couple du lieutenant et...
C'est ce que j'allais dire, et c'est fascinant parce que ça montre... Il y a une scène qui moi, me marque beaucoup pour plein de raisons, mais à un moment, donc, Louis Garrel dit à Camille Cotin qu'il voudrait avoir un deuxième enfant, elle dit « mais tu n'es jamais là », etc. Il dit « mais c'est pas un souci, on peut tout à fait... calculer le truc pour que je sois en permission, pour que je sois en Corse au moment de l'accouchement. » Et où Camille Cotin lui dit « mais en fait, c'est pas l'accouchement qui pose problème, il y a d'autres choses autour de l'accouchement. » Et lui, de toute évidence, alors que il vient d'un milieu relativement éduqué, etc., pas du tout, il percute pas que, en fait, ne pas être là au quotidien, pour lui, ce qui est important, c'est d'être là au moment important, sans percevoir qu'en fait, c'est aussi important d'être là tout court.
Mais d'ailleurs, pour moi, cette scène, elle révèle quelque chose d'assez intéressant. C'est donc d'une part sur l'attente. En effet, c'est un film sur l'attente, c'est-à-dire l'attente des femmes qui attendent les hommes qui sont partis au combat, mais l'attente des hommes aussi. On les voit, eux, quand ils sont dans leur base opérationnelle avancée, ils sont dans des positions d'attente en permanence. Ils touchent leurs armes, ils les démontent, ils les remontent en un temps record. Bref, ils sont dans l'attente d'un combat pour lequel ils ont été formés en permanence et dans lequel ils ont envie d'aller. Donc, on est dans une position d'attente.
Soit dit en passant, c'est une très bonne exemplification de ce qu'on dit souvent sur la guerre, que la guerre, c'est d'immenses moments d'ennui entrecoupés de quelques moments de terreur absolue.
Tout à fait. Sauf que la représentation majeure de la guerre, c'est l'action. Et d'ailleurs, le tropisme a aussi lieu dans les études en sciences sociales sur la guerre, où on a une forme de surreprésentation de l'affrontement, de la mort au combat, l'hypothèse de la mort comme hypothèse de travail. Là,
dédicace à Michel Goyat.
Un spécial dédicace. Sauf que là, pour une fois, on a ce processus, ce moment d'attente, qui est l'une des multiples références au travail de Claire Denis, le film qu'elle avait fait qui s'appelait Beau Travail, dans lequel là, on suivait un groupe de légionnaires à Djibouti et à Marseille. C'est un peu la même ambiance planante d'attente, de non-combat, mais de préparation permanente au combat. La deuxième référence à Claire Denis, d'ailleurs, étant le fait que Grégoire Collin, qui était son personnage principal dans Beau Travail, est ici le chef de corps. C'est le même acteur.
Beau Travail, on peut préciser, c'est un film... J'en parlais dans un épisode, un drôle viseur, quelqu'un qui me parle de Djibouti, je sais pas si je l'aurais déjà diffusé ou pas. C'est un film merveilleux, d'une beauté invraisemblable, très bizarrement construit. Djibouti, c'est beaucoup plus beau que la Corse, en tout cas tel que c'est dépeint dans ce film. Et vraiment, simplement, on peut dire, c'est vraiment, faut le recommander très très fort parce que c'est vraiment des images assez incroyables et une très très belle description du métier de légionnaire, mais de manière d'ailleurs un peu plus à la fois terrible et en même temps plus romantisée que là ce qu'on a, où c'est très prosaïque, où c'est très... voilà, c'est la vraie vie de militaire, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, je crois que Rachel Lang se défend, en fait, d'avoir voulu faire ni une réponse, ni un calque à Beau Travail de Claire Denis, sauf qu'on a cette dernière scène, qui est un espèce de corps à corps entre le légionnaire et puis son subalterne, où ils font de la lutte torse nu sur un espèce de plan large, puis en fait ensuite plan serré sur ces deux personnages. Je sais que Camille Trotou, tu préciseras, mais qu'on a reproché à ces scènes de mettre en scène un espèce d'érotisme homosexuel. Là encore, pour moi, référence claire à Claire Denis, où on voit tous ces légionnaires qui sont torse nus, qui font des espèces de chorégraphies sur la plage, où on a en effet une mise en scène du corps du soldat. Alors, homoérotique ou non, je pense que le débat n'est pas vraiment à engager. Ce qui nous importe, c'est comment est-ce qu'on représente ce corps à corps entre légionnaires.
Mais je sais pas, enfin, peu importe, l'armée met en avant les corps. Met au centre les corps, construit les corps, les développe, les conforme à des choses qui ne sont pas forcément aussi esthétisées pour le grand public que ce qu'on a là ou dans Beau Travail, mais évidemment qu'il y a appelons ça un érotisme ou pas, mais oui, il y a une relation très comme ça au corps chez les militaires. Camille
oui.
Trotou.
Oui, et puis sur cette dernière scène, avant de rebondir sur le rapport au corps qui est très présent dans ce film de Rachel Lang, sur cette dernière scène, il faut y voir plus une étreinte fraternelle. Désolée de spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais Vlad meurt à la fin, et en fait, le lieutenant...
Maxime... Ça n'a aucun souci, c'est aucun problème, on peut regarder tout aussi bien le film.
Oui.
Je le dis parce que, bon, pour moi, c'est le principal défaut, c'est que je trouve qu'il narrativement, il est assez mal construit, et qu'on n'a pas beaucoup de tension, etc., mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de choses très très belles, et notamment ce moment-là. Oui.
Je ne suis pas sûre que la tension soit l'objectif du film, mais bon, pour revenir sur le rapport au corps, effectivement, donc cette étreinte fraternelle, c'est un petit peu... l'adieu d'un père à ses enfants, puisque Vlad est mort, le lieutenant a perdu un enfant. Il ne faut pas oublier, que dans les armées, il y a cette idée très forte d'esprit de corps, faire corps. C'est une famille, on appelle souvent ça la deuxième famille, et on le voit par rapport à ce qu'on a dit aussi précédemment dans nos échanges, à quel point le métier de militaire englobe tout le reste et fait que même la famille elle-même... le foyer, on va dire, familial, est impacté. Donc, cette scène-là, cette dernière scène de corps à corps, c'est vraiment ça. Et elle vient un petit peu au climax de tout ce qui est rapport au corps dans ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, les corps sont façonnés, il y a une vraie pratique sportive, les corps sont blessés, ils sont tués. C'est d'ailleurs, on ne les voit pas quand ils sont... Le corps mort, on ne le voit pas, mais on le devine dans différents cercueils. Le corps, il y a des tatouages. Voilà, Vlad porte sur le cœur la flamme de la Légion étrangère. Dans le dos, il a son brevet de parachutiste. Il y a une vraie incorporation au premier sens du terme.
En passant, ça c'est intéressant parce que c'est pas un officier que ça arriverait d'être tatoué comme ça. Et c'est on le voit, c'est les militaires du rang qui sont tatoués.
Militaires du rang et sous-officiers, ouais. Puisque ce qu'il faut savoir dans la Légion étrangère, c'est que les officiers passent par Saint-Cyr. Et qui suivent un cursus à Saint-Cyr avant de choisir, pour les meilleurs d'entre eux, bien souvent, la Légion et une des armes de la Légion. Mais oui, effectivement, Et puis, donc il y a ce tatouage, il y a les corps blessés, les corps morts. Et puis, chez les femmes aussi, enfin, Nika se fait tatouer dans le bas du dos mon légionnaire, donc il y a aussi un symbole très fort d'incorporation.
Et de la même manière, c'est pas à Camille Cotin
que c'est ça, pas Camille, ça arriverait. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Et le corps de la femme aussi, un peu à la fois parallèlement mais en miroir, le corps de la femme et l'image du corps de la femme est assez présente dans ce film. C'est un corps où la fonction reproductrice est très présente. Nika est enceinte. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si elle est enceinte du moniteur ou de Vlad.
Du moniteur d'auto-école.
Le moniteur d'auto-école, pardon. Voilà, c'est ça qui est un peu le grain de sable, enfin dans le rouage. Ça on le sait pas, vous l'avez évoqué donc avec le lieutenant qui demande à sa femme de faire un deuxième enfant, donc la fonction reproductrice du corps de la femme est assez présente.
Mais c'est très intéressant parce que les enfants sont très clairement présentés comme des outils pour survivre à cette attente. C'est un personnage relativement secondaire qui dit à un moment à Nika, puisque bon, son mari ne veut pas avoir d'enfant, qui dit il faut avoir un enfant parce que c'est le ciment du couple. Et ce à quoi donc ce légionnaire ukrainien Vlad répond en offrant un chien à sa femme.
Exactement. Et d'ailleurs, Nika, lui, le jour où il lui l'offre, elle lui dit c'est pour remplacer un enfant. Et dans la foulée, si je me trompe pas, il y a un accès de violence et on le voit mettre un coup de poing dans la porte. Donc, mais les femmes aussi sont vues comme un outil, c'est la base arrière, c'est le pilier. Elles sont là pour attendre, on l'a dit, elles sont là pour soutenir. Et justement, et quand elles évoluent en dehors de cette sphère, comme Camille Cotin, ça pose problème. Et on se fait rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est assez...
Je pense que le dispositif là, du film, il est intéressant parce que les militaires ne se vivent jamais comme étant dans cette situation où la femme est un outil, où la femme est une base arrière. Et donc, enfin, si, les femmes se vivent et elles sont vécues comme la base arrière et l'ancrage solide, mais ce rapport quoi, qui s'instaure, qui est un rapport social hein, entre femmes de militaires procréatrices et disons, qui sont celles qui assurent la stabilité, la solidité du couple et la base arrière, et hommes qui vont au combat, ce rapport de dépendance, de codépendance, parce qu'en fait, les hommes ne partent pas au combat de la même manière quand il n'y a pas de femme et pas d'enfant que quand c'est le cas. Ils ne commandent pas de la même manière que quand ils ont des enfants et une femme et quand ce n'est pas le cas. Ce rapport social, il est très bien montré dans ce dispositif spécifique de presque mise en parallèle de l'homme parti, la femme restée. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en effet, les militaires ne se vivent pas dans cette situation d'une codépendance. En tout cas, ils ne se mettent pas en récit de cette manière-là. Souvent, il y a une forme d'évidence à ce que la femme reste à la maison et quitte son emploi, souvent alors que c'est une personne qui est aussi très qualifiée et qu'elle s'occupe de l'enfant.
Et c'est intéressant parce qu'il y a un moment où il y a une discussion avec son fils où le personnage de Louis Garrel dit « il faut que je parte pour... » ramener à manger, etc., pour ramener du pain. Ce qui est très intéressant, qu'il le vive ou qu'il le fantasme comme ça, parce que évidemment qu'il a... Enfin, il y a d'autres métiers dans la vie que légionnaire.
Pour payer les céréales de son fils.
Pour payer les céréales de son fils, et que sa femme étant avocate, il y aurait probablement d'autres moyens de payer des céréales, et que par ailleurs, étant officier dans les armées françaises, bon, avoir choisi la Légion, c'est avoir choisi cette vie-là. C'est pas une contrainte, c'est pas il faut absolument partir au charbon pour que la famille ne meure pas de faim. Mais c'est intéressant la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire vouloir présenter la nécessité de partir pour ne pas assumer ce choix, que en fait c'est un choix très conscient et très explicite quand on s'engage dans certaines armes. Voilà, quand on est personnel navigant dans la Marine nationale. Ouais, c'est pas, il faut pas partir parce qu'il faut partir. On part parce qu'on l'a choisi.
Oui, et puis ça pose aussi la question du cette espèce de cercle à la fois vicieux et vertueux, c'est-à-dire que parfois le retour est tellement difficile qu'on préfère repartir comme dans une sorte de fuite, puisque et on le voit hein, à la fin de dans la dernière partie, les dernières minutes du film, il y a une impossibilité de raconter. Il y a une impossibilité de partager avec ceux qui sont restés. Louis Garrel est au téléphone avec sa sœur et il lui dit « il n'y a pas grand-chose à raconter ». Il n'y a pas grand-chose à raconter alors qu'il a perdu des hommes, ils se sont fait prendre à partie, ils ont sauté sur des IED et il dit « il n'y a pas grand-chose ». Et en fait, ça raconte l'impossibilité de partager avec ceux qui sont restés. Et ça, c'est quelque chose qui est connu hein, quand on traite du PTSD, des chocs émotionnels, des traumatismes quand on revient en France. Le fait de vouloir repartir sans arrêt, hein, c'est vraiment cette fuite en avant. Et d'ailleurs, dans le film, alors effectivement, il y a cette question de la narration. Des fois, on ne sait pas très bien. J'ai l'impression que moi, qui parte quand même trois fois au Mali pour trois missions différentes, et ça commence par un sentinelle. Ce qui montre aussi dans ce rapport au temps et à l'emprise que le métier a sur la vie.
Mais c'est pas clair, on sait pas combien de temps ça prend, ce film.
Mais je pense que ça participe justement de cette oppression, quelque part. Et peut-être c'est là que se trouve cette tension, en fait. Dans le départ, dans l'absence, en France, quoi.
Ouais, mais cela dit, vu que le gamin grandit pas trop,
s'ils ont fait
trois mandats au Mali, ça c'est que vraiment ils sont à un niveau de déploiement type force spéciale.
Bah, ça fait tous les 12 à 18 mois un régiment de combat en temps normal. C'est tous les 18 mois quand ça se passe bien, tous les 12 mois quand on a des événements un petit peu comme l'Ukraine cette année. Donc finalement, ça va assez vite. Hein. Pour les familles, c'est très pesant.
Il faut peut-être dire, justement, pour terminer, un mot du Mali, parce que j'ai trouvé que c'était... je sais pas, il y a peut-être d'autres exemples, mais moi, j'en ai pas de films qui montrent très bien Barkhane. C'est-à-dire, c'est tout bête, mais je crois que j'ai rarement vu autant la poussière. Et c'est ce que tout le monde raconte. Je veux dire, c'est très clair. Enfin, tous les viseurs qu'on a fait sur le Mali et Barkhane, tout le monde dit, en fait, c'est des convois, c'est des routes en poussière, il y a de la poussière partout, etc. On voit rien, faut qu'on, du coup, c'est espacé beaucoup. Alors, c'est peut-être le seul problème dans ce truc-là, c'est que le convoi est très peu espacé.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est peut-être la seule partie qui n'est pas forcément très réaliste. Mais sinon, voilà, on voit qu'ils sont pris dans le sable et la poussière, on voit qu'ils s'ennuient, on voit que le danger peut surgir de partout, qu'ils ne comprennent pas fondamentalement très bien ce qui se passe, ils sont pris à partie plusieurs fois ça ne se passe pas bien, etc. Bon, il y a plein de moments comme ça qui, en tout cas, m'ont paru très justes.
Oui, on le voit sur l'ordinateur du lieutenant quand il est dans son VAB, il y a plein de sable dessus, ça bouge dans tous les sens. Mais je crois que le film doit s'ouvre, je me demande s'il ne s'ouvre pas sur une scène de véhicule avec de la fumée partout. En tout cas, cette image-là revient à plusieurs reprises dans le film. Donc là-dessus, c'est assez réaliste, même si on ne s'éloigne jamais vraiment de ce qui se passe dans le VAB du lieutenant et du convoi,
mais parce
ou
que,
de la BOAT.
Parce que les militaires s'éloignent rarement du convoi
on
ou
ne s'éloigne
de la BOAT.
Jamais. 5,25, au plus loin, vous irez à 25 mètres de votre véhicule. Donc c'est là-dessus, ouais, ça, c'est...
Et par ailleurs, simplement... Mais en fait, c'est ça, mon reproche principal au film, c'est qu'il y a énormément de très jolis moments, très justes. Il y a énormément de trucs super, ce qui n'en fait pas forcément un super film. C'est-à-dire, j'ai eu du mal à suivre. J'ai pas été énormément pris, même si à toutes les 10 minutes, je notais un truc génial que je voyais. Et par exemple, il y a un autre moment au Mali où voilà, ils découvrent, enfin, ils prennent à partie des combattants ennemis. Il y a un tigre qui arrive pour supprimer la menace ennemie, et ils ressortent des jeunes de 14-15 ans. Ils sont choqués du fait que les insurgés peuvent être aussi jeunes que ça. Ce qui est super, mais j'ai pas trouvé ça très exploité. Enfin, ils en disent deux phrases après, c'est très éclaté, etc. Je trouvais que tous ces moments-là n'étaient pas forcément pris dans un tout, dans une cohérence totale qui en faisait un film qui nous fait sentir vraiment quelque chose de particulier. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Florian.
Moi, j'ai l'impression que ça montre peut-être une difficulté à faire un choix de la part de la réalisatrice entre ce qu'on veut montrer de l'intime, ce que ça fait à ces soldats de voir des enfants de 14 ans, alors même que juste après, on a une scène avec ces trois soldats qui parlent de leur enfant à eux. Ibrahim parle par exemple... Non, pardon. Un des soldats parle de son fils Ibrahim qui vient de naître et dans la même phrase dit « Ah là, 14 ans, c'est beaucoup trop tôt pour faire la guerre ». Donc j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de tension dans la volonté de la réalisatrice d'avoir voulu montrer comment l'intime touche toutes les dimensions de la vie du soldat entre la famille, le camp de base, le départ, l'affrontement, le retour. Ce qui fait qu'en fait, en effet, on a peut-être presque l'impression d'un film en mosaïque avec des incises, mais sans pour autant réussir à se faire emmener dans quelque chose qui nous transporte et qui crée de la tension, comme tu disais. Ouais.
Mais parce qu'encore une fois, et tu l'as très bien dit en début d'échange, c'est pas un film de guerre, c'est un film sur l'intime des militaires, et en l'occurrence la Légion étrangère, qui est aussi cet isola, presque, au sein de l'armée de terre et des armées françaises.
Si je peux rajouter une dernière petite chose, je crois qu'on a parlé rapidement de la Corse en disant qu'on voyait peu de choses de la Corse. On voit quand même un acteur qui s'appelle Thomas, et dont l'acteur qui joue Thomas s'appelle Jean-Michelangeli. Et c'est pas n'importe quel acteur, c'est son deuxième rôle à cet acteur, et son premier rôle, c'était un film de Thierry de Peretti qui s'appelait Une vie violente, et qui parlait justement, précisément, de la violence politique en Corse. Donc c'est un acteur qui est corse, et je trouve ça assez symbolique que ça soit lui qui joue le corse, qui vienne un peu déranger la bonne vie et la bonne tenue de l'intimité du régiment. En fait, on a presque une image, quand on a vu le film d'avant, on a une image de la Corse qui va foutre le bordel, en fait, avec cet acteur.
Et c'est très intéressant, parce qu'effectivement, il y a un truc aussi avec la Légion, c'est qu'ils viennent tous d'endroits hyper différents, enfin tous les militaires du rang et les sous-officiers, évidemment les officiers sont français. Et du coup, on a l'impression que c'est presque une emprise extraterritoriale au sein de la Corse, c'est-à-dire pour faire un creuset efficace, ils ont besoin de s'enclore totalement par rapport au territoire où ils sont. Et du coup, effectivement, c'est quand la Corse devient plus qu'un paysage et un décor, c'est là que la Légion est en péril, quoi.
Mmh. Oui, d'ailleurs, on les voit s'entraîner à un moment entre deux opérations, et là, la Corse n'est qu'un support. C'est le support physique de leur entraînement. C'est une contrainte qu'on utilise comme une manière de se former à la rugosité de l'espace, quoi. Donc en effet, là, désincarné. Jusqu'au moment où la Corse arrive par ce fameux Thomas qui va venir embrasser Nika. Donc là, oui, on a cette espèce de perturbation qui est faite par cette Corse.
Et justement, est-ce qu'on sait... Est-ce qu'on sait comment il est passé ce film? Parce qu'il y a d'ailleurs autant dans le tournage que dans la réception, mais parce qu'on le dit à chaque fois qu'on fait un film comme ça sur les armées, enfin, d'ailleurs en général, mais en particulier sur les armées françaises, c'est, tout ça c'est des tournages qui ne peuvent pas exister sans une coopération plus ou moins forte de l'institution militaire. Enfin, c'est tout bête, mais il y a des hélicoptères, notamment un Tigre, etc. Enfin bon, évidemment que ça se trouve pas sur un site de location de tournage. Donc forcément, il y a une coopération du ministère des Armées. Voilà. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé, Florian Pia?
Alors pour ce qui est du tournage, moi, le retour très rapide que j'ai eu d'un officier qui était sur place, en tout cas qui a eu des échos du tournage dans le régiment, ça a posé des problèmes, mais évidemment qu'une équipe de tournage pose problème, mais vous imaginez la logistique que ça représente, les caméras, le personnel, etc., qui vient forcément perturber la routine de ce que c'est qu'un régiment qui est millimétré, qui doit fonctionner. Donc on sait qu'il y a eu une période d'immersion, et que cette période d'immersion à la fois permet, je pense, une forme de réalisme presque documentaire dans le film, et à la fois à représenter une forme de perturbation, voilà, dans ce que c'est que la vie d'un régiment.
Camille Trotou ?
Oui, pour ma part, alors sans vouloir trop m'avancer, mais de ce qu'on m'a dit, le film a été... la réception du film auprès de l'institution a pu être un petit peu délicate et provoquer quelques tensions, notamment avec la DICOD ou la Légion étrangère.
Donc la DICOD, on va pas faire un cours d'organisation au sein du ministère des Armées, c'est compliqué, mais la DICOD, c'est notamment la direction de la communication qui s'occupe de ces choses-là, disons des images des armées sous certains plans.
Exactement. Et on peut, alors ce sont des hypothèses, mais on peut tout à fait supposer qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pas le film propagande comme on peut connaître parfois. Je pense au Chant du Loup ou aux Forces Spéciales. Et puis il y a quelques petites...
C'est pas sympa de mettre les deux dans le même, dans le même sac. C'est vraiment pas cool pour le Chant du Loup. Mais
Et pour il y a quelques petites incises au cours du film qui peuvent éventuellement venir écorcher l'image des armées ou l'image de la Légion étrangère, notamment je pense pour donner trois exemples assez rapides, lorsque le lieutenant parle d'alcoolisme et il évoque que c'est un pléonasme à la Légion, quand il est à la popote, donc qui est un peu le bar informel en opération extérieure. Et avec ses deux collègues lieutenants, et qu'il exprime ce qu'on va appeler en langage indigène un truc de chasseur de médailles, c'est-à-dire que presque il regrette, il le dit. Et, oui, enfin, nous, ça fait 2 ans qu'on n'a pas été pris à partie. On sent aussi, pour revenir sur les débats qu'on a eus, qu'il y a une préparation au combat, il y a une attente au combat, et que tout n'est fait que dans l'objectif de ce combat. Et quand ce combat ne vient pas, c'est aussi difficile pour les militaires de garder du sens, de la motivation, etc. Donc il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi cette fameuse discussion au restaurant où le lieutenant et sa femme sont avec des amis qui les questionnent sur le pourquoi de l'intervention, pourquoi au Mali, pourquoi est-ce que tu t'es engagé, est-ce que tu as bien conscience que tu vas défendre les intérêts énergétiques d'Areva, que quand même la France a une certaine histoire avec certains de ces pays d'Afrique, notamment le Mali. Et donc on sent qu'il y a des petites incises au sein du film qui peuvent venir être un peu... faire office de poil à gratter. Donc voilà, c'est juste un point.
Ouais, ouais, mais bon, il n'y a pas de... Enfin, on l'a déjà dit ici, enfin, il n'y a pas de fatalité à ce que les images des armées soient toujours bonnes. Enfin, les armées, c'est pas que des trucs super. Donc, enfin, je veux dire, c'est la différence entre faire des films et faire des clips de com ou de la... Enfin, c'est pas de la com, c'est... Enfin, non, mais j'y pense, parce que c'est... Enfin, faut le dire, quoi. C'est important de dire que la condition pour que y ait une influence, disons, culturelle des armées, une sorte d'acculturation des armées à l'échelle de la population française, y compris par des films, des séries, etc., c'est de prendre le risque aussi que... Voilà, que certains films ou certaines séries montrent aussi des côtés moins reluisants. Et d'ailleurs, on pourrait argumenter que c'est peut-être un service à rendre aux armées, et notamment quand il s'agit de recruter, que de ne pas donner une idée délirante et trop fantasmée de ce que sont vraiment les armées, parce que sinon il y a des gens qui vont s'engager et déchanter sévèrement en voyant aussi certaines autres facettes, quoi.
C'est ça, ne pas... Il faut qu'on garde à l'esprit la fidélisation. Et ne pas créer de désillusions trop importantes entre la réalité du métier et ce que les gens avaient pu idéaliser, justement, ou ce qu'ils en attendaient.
Donc. À ce titre, d'ailleurs, le fait qu'on les voit faire du sentinelle est une manière déjà de dire regardez, vous avez des forces qui sont surentraînées et qui sont parfois faites pour partir sur des théâtres d'opérations violents, et pourtant, Ils défilent dans les rues, en sentinelle, comme tout le monde, comme les premières recrues.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc je vais rappeler les références de ce film, donc Mon Légionnaire de Rachel Lang, sorti en 2021, avec notamment Louis Garrel et Camille Cotin. Merci beaucoup.
Merci.